Les 16 et 17 septembre prochains ont lieu les Nuits des Bassins, deuxième édition de cet événement dédié aux nouvelles images contemporaines et aux installations vidéo-sonores. Ça se passe à Arras, du côté des bassins du Val de Scarpe et des jardins de Cité Nature. C'est organisé par les ateliers de la Halle. L'occasion pour nous de rencontrer sur place Luc Brévard, directeur des ateliers. Il dirigeait auparavant à Arras l'assaut Le Quai de la Batterie.
Alors, le projet des ateliers de la Halle, bien sûr, c'est une continuité du Quai de la Batterie, où on a pris place dans des bâtiments à Cité Nature, le deuxième bâtiment annexe où la CUA nous loge. Voilà, c'est un projet qui a évolué par rapport au Quai de la Batterie, qui a beaucoup plus évolué maintenant vers la production artistique, parce qu'on a vraiment des ateliers. Ce ne sont plus des bureaux, ce sont vraiment des ateliers. On a pu s'installer dans des conditions merveilleuses de lumière et d'accessibilité pour les écoles, pour recevoir les écoles et les artistes aussi. Donc voilà, on développe et on prolonge le projet de manière plus artistique, production et événements aussi où on montre et où on invite les artistes, quoi, bien sûr.
Un petit mot sur le bâtiment. Ici, c'était déjà un atelier avant. Enfin, qu'est-ce que c'était avant?
Non, c'était pas du tout un atelier. C'était le logement du concierge de Cité Nature. Et donc, quand on a réussi à négocier pour récupérer le bâtiment, ben voilà, on a rasé quelques cloisons pour faire un plateau. On a un plateau de 80 mètres carrés d'un seul tenant qui nous permet d'avoir pu installer nos machines, toutes les machines d'impression 19e, et aussi d'avoir un espace d'accueil suffisamment vaste pour recevoir une école et mener à bien des projets culturels et pédagogiques avec les enfants.
L'objet de l'association, ça tourne autour de l'impression du livre d'art.
Oui, voilà, l'association est principalement dédiée aux techniques de l'impression d'art, toutes les techniques, et plus particulièrement aux livres d'artistes. Donc on imprime de l'estampe, on fait découvrir tout l'univers de l'estampe au travers de toutes ces techniques, que ce soit la gravure, la lithographie, la sérigraphie, le photopolymère, l'impression numérique, qui fait partie maintenant du monde de l'estampe. Mais on est beaucoup plus spécialisé, on est particulièrement spécialisé et reconnu nationalement dans le domaine du livre d'artiste, où là d'ailleurs on est en train de mener un travail de recensement des artistes du livre d'artiste en région Hauts-de-France.
On voit autour de nous, donc vous avez parlé de l'aspect plus moderne, plus numérique, mais il y a donc essentiellement des vieilles machines ici aussi dans cet espace. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu peut-être une de ces machines?
Donc l'univers de l'estampe, de l'imprimerie d'art, paradoxalement, mis à part l'impression numérique qui a intégré le marché de l'art, est toujours un travail de production à l'ancienne, parce qu'on n'a jamais fait mieux que d'imprimer en lithographie ou en gravure. Pour imprimer en gravure, il faut une presse traditionnelle. Et là, par exemple, on a une presse Voirin du fin 19e, 1870. C'est une presse lithographique qui vient des ateliers Mourlot à Paris. Et la particularité de cette presse, et qui fait aussi toute la magie de la presse, c'est que Picasso a travaillé de nombreuses années dessus aux ateliers Mourlot à Paris. Et d'ailleurs, Flammarion avait édité un livre où on voit Picasso en train de travailler sur cette presse. Et maintenant, elle est ici à Arras. Elle a donc cette histoire qui se prolonge. Et c'est vrai que ce qui est toujours très drôle, c'est quand on invite des artistes, qu'on leur explique cette histoire. Ils sont là, ils osent à peine la toucher en se disant « le maître Picasso a travaillé dessus », mais non, au contraire, elle continue de vivre et c'est ce qui est fabuleux, quoi.
Alors un petit mot sur les livres que vous éditez, comment ça se passe? En fait, il y a des gens qui vous commandent des choses ou bien quels livres finalement sortent de cet atelier?
À l'origine, en fait, moi je faisais du livre d'artiste en tant qu'artiste, et en 1995, on a créé la première biennale internationale du livre d'artiste à l'ancien Quai de la Batterie, hein, bien avant l'hôtel de Guine, ça, les vieux arageois s'en souviennent. Et en fait, de fil en aiguille, cette biennale s'est renouvelée, hein, on va faire la 11e, 22 ans de livre d'artiste à Arras. On s'est spécialisé dans la connaissance du réseau, dans la connaissance de l'univers du livre d'artiste. Donc c'est devenu un point de rendez-vous pour de nombreux artistes du livre en France et en Europe. Et nous, en fait, on produit du livre d'artiste avec les enfants, c'est-à-dire on leur fait découvrir cet univers-là et on développe tout un travail pédagogique autour de la lecture publique et autour du livre comment un enfant peut appréhender le livre d'une manière non rébarbative ou non contraignante comme peut l'être quelquefois l'univers scolaire. Donc nous, d'une manière ludique et créative, on aborde les domaines du livre au travers de toutes ces techniques d'impression, mais aussi de tous les possibles du livre. Comment on peut détourner un livre pour en faire un livre d'artiste, comment on repeint, comment on sculpte, comment... Voilà. Il y a plein de manières d'aborder le livre. Et après aussi, on a une fonction d'éditeur, c'est-à-dire que quand on accueille des artistes en résidence, ils ont la possibilité de produire du livre grâce à nos machines et à nos savoir-faire. Mais on ne répond pas à une commande de quelqu'un qui viendrait « Ah ben, je veux éditer ». Le livre d'artiste est un univers aussi de micro-édition, c'est-à-dire un livre d'artiste, c'est entre 1 pour les livres-objets jusqu'à 30, 40 exemplaires uniquement. Et c'est ce qui fait toute la valeur du livre d'artiste, c'est sa rareté et sa technicité.
J'ai l'impression que parallèlement à la numérisation, il y a aussi pas mal de gens qui s'intéressent aux anciennes techniques. Notamment, on voit pas mal d'ateliers de sérigraphie qui ont poussé à droite à gauche en France. Comment vous voyez ça, vous ?
L'univers de l'ordinateur a déshumanisé en fait la relation qu'on a avec le livre, avec la matière. En fait, on ne touche plus, on n'intervient plus. Et je pense que de manière naturelle, l'homme, on a besoin de toucher, on a besoin de faire travailler au-delà de notre cerveau, nos bras. Et le rapport au toucher, le rapport à un beau papier, le rapport à une lettre au plomb qu'on va imprimer est quand même assez différent et beaucoup plus jouissif que juste avec une souris cliquer sur l'icône imprimée. Voilà, nous on revendique tout ça, on revendique ce toucher, cette intimité qu'on a avec l'objet, avec le livre, avec le papier, avec l'image, avec l'estampe. Créer une image en sérigraphie, c'est chaque couleur est imprimée séparément. Donc une image très compliquée va avoir 30 couleurs. Donc il faut imprimer 30 couleurs les unes après les autres pour les superposer, recomposer l'image. C'est-à-dire qu'on a une relation à l'image qui se fait dans le temps. Et qui se fait dans la compréhension de l'image, dans la construction de l'image. Alors qu'avec l'ordinateur, tout le monde avec Photoshop a l'impression d'être artiste. Sauf que dès qu'on les met dans un atelier, on se rend compte que les gens, bien évidemment, ne sont pas des artistes. Et Photoshop ne rend pas artiste. Photoshop n'est qu'un outil. Et l'intérêt justement que porte maintenant de plus en plus le public vers ces techniques anciennes, c'est vers un retour de savoir-faire, de relations en fait beaucoup plus intimes avec les notions d'œuvre. On réhumanise en fait le rapport qu'on a à l'œuvre d'art, à l'image. On est tellement abreuvé d'image qu'on ne sait même plus comment est faite une image. Venir dans un atelier, c'est recomprendre comment une image est faite. Imprimer un texte, c'est composer une phrase. Composer une phrase au plomb, c'est reprendre lettre à lettre, à l'envers, les mettre bout à bout, et les imprimer après à l'endroit par la presse. Et la magie, c'est en fait quand on soulève le papier, quand on est en train d'imprimer, qu'on soulève le papier et de découvrir l'impression en fait, qui est cachée parce que le papier est posé à l'envers. Et c'est tout le temps, moi ça fait 30 ans, plus de 30 ans que je fais ça, c'est tout le temps la même magie de découvrir une image qu'on vient d'imprimer. Parce que il y a toujours l'incertitude, est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché? Est-ce qu'elle est réussie? Est-ce que j'ai bien ancré? Est-ce que j'ai pas bien ancré? Est-ce que j'ai pas bougé? Est-ce que j'ai pas vibré? Et donc ça, moi, ça rend plus humain, en fait, quelque part. Ça rend plus humain. Et c'est aussi un boulot où on ne travaille jamais vraiment seul, complètement seul. On va travailler toujours au moins à deux ou quelquefois trois, ou quand on emmène une classe complète dans le travail. Là, on est tous ensemble sur un projet. Et ça, ça donne une force. Et dans un projet pédagogique, c'est excessivement intéressant pour amener les enfants vers des compréhensions du texte. Par exemple, comprendre un texte en le composant au plomb, c'est 10 fois plus efficace qu'en le tapant à l'ordinateur ou le correcteur d'orthographe fera tout derrière. Après, on n'est pas contre l'ordinateur non plus, puisqu'on y travaille avec, et quelquefois on mixe même les techniques entre les techniques contemporaines, donc les techniques digitales, et les techniques anciennes pour avoir des résultats différents, des résultats beaucoup plus nouveaux, novateurs. Mais l'exemple parfait, c'est l'encre, en fait. Vous imprimez avec un ordinateur sur une imprimante, ou vous demandez à votre imprimeur de vous imprimer une affiche, vous la mettez au soleil, 15 jours après, l'image n'existe plus. Donc nous, on travaille avec des encres pigmentaires, dans 500 ans, ce qu'on a imprimé sera toujours aussi frais. Voilà.
On est toujours en compagnie de Luc Brévard, directeur des ateliers de la Halle, situé dans la Halle annexe de Cité Nature à Arras. Les ateliers de la Halle organisent ces vendredis 16 et samedi 17 septembre les Nuits des Bassins.
Vous parlez du rapport au contemporain. Votre association propose notamment deux rendez-vous qui touchent à la culture contemporaine autour du film d'animation, la Monstra. Et puis, prochainement, donc, cette deuxième édition des Nuits du Bassin. Alors, c'est cet intérêt vers le visuel qui vous a aussi amené vers le film d'animation, vers toutes les techniques digitales, le mapping, etc. aussi.
Alors il y a deux choses. En fait, on travaille depuis toujours l'image, l'image imprimée, mais surtout l'image. Et ouvrir à l'image projetée était quelque chose d'intéressant. On est l'image imprimée et l'image projetée. C'est deux rapports à l'image qui vont être primordiaux dans le regard qu'on peut avoir sur l'œuvre contemporaine. L'histoire de Monstra, en fait, c'est des rencontres sur mes réseaux internationaux, des rencontres il y a 7-8 ans d'artistes portugais et du festival Monstra à Lisbonne, et de leur dire, chiche, qu'on fasse Monstra à Arras. Ils ont des chiches, et maintenant on en est à la 6e année, nous on y va tous les ans, projeter des films réalisés par les enfants, projeter des films réalisés ici dans nos ateliers. Donc ça nous a donné un goût à l'image animée, au film d'animation, qui n'était pas vraiment notre vocation première. C'est une rencontre, un hasard d'une rencontre, et le plaisir de découvrir cet univers, et maintenant d'en faire partie intégrante, puisqu'on produit et on mène des actions de production. Et après, les Nuits des Bassins, c'est ce rapport à l'image projetée, puisque de fil en aiguille, on a les projecteurs qui projette les films d'animation, et puis on se rend compte que on peut projeter aussi plein d'autres choses, tout comme on peut imprimer plein de choses, on peut projeter plein de choses et faire plein de propositions. Donc là, pareil, sur les réseaux qu'on a un peu partout dans le monde, on a des artistes qui travaillent le mapping, des artistes qui sont des VG, des artistes qui font de la vidéo contemporaine, de la vidéo expérimentale. Et l'idée des Nuits des Bassins, c'est de proposer un petit peu tout ça autour des superbes bassins du Val de Scarpe. Cette année, on ouvre dans les jardins de Cité Nature et d'inviter le public à une promenade, presque dans une sorte d'expo virtuelle, d'expo éphémère, d'images projetées et découvrir la richesse et la qualité du travail des artistes contemporains dans le domaine de l'image projetée. Nous intéresse et c'est une de nos vocations aussi d'ouvrir le regard du public vers de nouvelles formes et pas s'enfermer. On est imprimeur, donc on reste imprimeur, non? Nous aussi, on est curieux, donc on a envie que notre public soit aussi curieux que nous.
Le mapping, c'est quoi exactement, là?
Alors, le mapping, c'est une technique de projection où on éclate l'écran, qui a priori, un écran est bidimensionnel. Et là, on éclate des notions d'écran dans le tridimensionnel, c'est-à-dire qu'on est dans l'espace, on va définir des surfaces à projeter, mais pas uniquement sur un plan bidimensionnel, mais sur un plan tridimensionnel. Et la projection, en fait, s'explose dans l'espace en micro-zones de projection. Chaque micro-zone définie par l'artiste, à partir d'un seul vidéoprojecteur, va être injectée d'images et d'animations, de films, de samples, pour donner une image globale qui devient complètement fantastique parce qu'elle est explosée dans l'espace. On se demande comment c'est fait, alors pourtant il y a souvent un seul vidéoprojecteur, quoi. Ça, c'est vraiment, j'invite tout le monde à venir voir ça parce que c'est complètement magique, quoi.
Petit mot, alors il y a pas mal d'artistes qui sont invités pour cette deuxième édition. Un petit mot de présentation peut-être d'un ou deux artistes.
Alors donc cette année pour la deuxième Nuit des Bassins, on a déjà deux partenariats très importants qui sont un partenariat avec l'école des arts médias de Cologne, qui est une école spécialisée dans tout ce qui est arts digitaux. Et donc là, par leur intermédiaire, on invite Tania de León, qui est une artiste mexicaine qui va venir de Mexico présenter une installation plutôt contemporaine qui s'appelle Chronos. Deux artistes colombiens, Diana Menestret et puis Camilo Colmenares, qui eux présentent des travaux de, de fin d'études, sont des gens qui sont maintenant dans l'univers professionnel de la vidéo. C'est des boulots vraiment intéressants. Eux sont des artistes qui vivent colombiens mais qui vivent en Allemagne. Une artiste, Pauline Flory, qui est une artiste allemande, franco-allemande, qui elle œuvre dans l'univers de la communication et la télévision en Allemagne. Et elle nous propose aussi une installation très intéressante d'une projection monumentale. Ça, c'est le premier partenariat. Deuxième partenariat avec l'ESAD de Caldeix da Rainha au Portugal, qui est une école d'art aussi, et qui est en lien aussi avec le festival Monstra. Donc, on a tout un volet Portugal où on va projeter des films d'animation qui nous viennent de Monstra, films musicaux. Vous allez avoir un rapport avec le son, l'espace naturel, vraiment merveilleux. Une proposition de Fernando Galrito, deux propositions de Thiago Silva et João Leitão. Voilà, ça c'est pour les Portugais. Et puis après, on a deux artistes belges qui proposent du vidjing, performance en direct de jeux d'images et de sons. Sur une cabane flottante au-dessus des arbres de Cité Nature. Ça, ne pas rater, parce que c'est vraiment l'univers complètement onirique des cabanes de notre enfance, mais là, associé à la technologie de l'image et du son. C'est vraiment fantastique et très rythmé, et très envoûtant et très entraînant. Et puis, le travail de Super Tex et Bebop, de deux frères Malik, qui vont nous proposer un mapping avec performance son en direct. Et là, c'est pareil, c'est sur les bassins, des échafaudages installés sur les bassins, avec de l'image qui va apparaître comme ça. Ça, c'est vraiment pareil, à ne pas rater. Puis pour argumenter tout ça, pour agrémenter tout ça, pardon, on a plein de petites séquences différentes d'animation. Il y aura le mini Paradisio, des projections sur des fenêtres, et puis quelques surprises, mais qu'on garde puisque ce sont des surprises.
Vous êtes toujours sur Radio PFM dans le magazine Info 30. On écoute un entretien avec Luc Brévard, directeur des ateliers de la Halle, organisateur des Nuits du Bassin, événement dédié aux nouvelles images contemporaines et aux installations vidéo-sonores. Ça a lieu à Arras, c'est vendredi 16 et samedi 17 septembre.
Le lieu, vous en avez parlé un petit peu, c'est un lieu important, un parc récent où il y a de l'eau, des végétaux, sans parler d'ici le côté cité nature. Le lieu a une importance dans l'événement, c'est aussi une manière aussi pour les Arajois de s'approprier ce lieu qui est assez nouveau quand même.
Ben les jardins, ce qu'on appelle les jardins Val de Scarpe, qui se situent entre Aquarena et donc les bâtiments de cité nature, sont merveilleux, ont été architecturés il y a une dizaine d'années, mais en fait sont absolument pas connus, alors qu'ils sont très très beaux, très très intéressants dans leur intégration dans l'espace, entre le canal et le Aquarena, le parc d'Aquarena. Donc pour nous, c'est une manière de les découvrir, de les redécouvrir, de le faire, et de faire venir le public, pour en avoir un autre regard, et après peut-être pour eux, pour le public, d'avoir envie d'y revenir dans la journée, faire une petite balade bucolique autour des bassins, quoi. Et cette année, on ouvre aussi sur les jardins de Cité Nature, avec un partenariat avec Cité Nature. Donc on va proposer vraiment une balade nocturne, très bucolique, autour de l'eau, autour de ces bassins et dans les jardins de Cité Nature de nuit. On a rarement l'occasion de voir les jardins de Cité Nature de nuit. Donc voilà. Pour nous, c'est cette idée de la place de l'art contemporain dans l'espace urbain, sauf que nous, notre espace urbain attenant à l'atelier est plutôt jardin, nature. Donc c'est merveilleux, quoi, parce que ça nous permet de nous faire plaisir. Et en même temps, je trouve, ça devient de plus en plus important, je pense, de faire des propositions à la portée du public. C'est vrai que le public en art contemporain, on se rend compte, quelquefois, a du mal à rentrer dans les galeries, dans les espaces fermés. Parce qu'en se disant « oui, mais bon, on ne comprendra pas » ou « si ou là », alors que l'art contemporain est tout aussi accessible que l'art classique, voire quelquefois plus, parce qu'il est ludique, parce qu'il est notre environnement. La télé, le cinéma, les magazines, c'est bourré de références d'art contemporain, puisque ils sont faits par l'art contemporain. Les nouvelles images ne sont pas des images du 19e, ce sont des images du 21e. Donc voilà, en amenant ça dans une déambulation gratuite sur deux nuits, c'est un moyen de découvrir des jardins, mais aussi de découvrir des formes artistiques, de se faire plaisir, donc à consommer sans modération.
Dernière question, justement sur la place de l'art contemporain dans la ville et dans la ville d'Arras. Vous êtes un artiste arrageois, artiste contemporain arrageois depuis pas mal d'années. Comment vous voyez un petit peu l'évolution de la place de l'art contemporain dans la ville d'Arras? Bon, maintenant il y a quand même aussi il y a des associations, il y a des choses qui se font au niveau de la fac, aussi au musée des Beaux-Arts. Les choses, on a l'impression, ont beaucoup changé ces dernières années.
En termes de propositions, oui, ça évolue dans le bon sens, dans le sens où il y a de plus en plus de propositions. En termes de présence de l'art contemporain dans la ville, c'est-à-dire dans le quotidien des gens, on a encore beaucoup de travail à faire si on compare aux villes nord-américaines, aux villes allemandes, qui, elles, il suffit de se promener dans n'importe quelle ville, grande ville allemande de plus de 100 000 habitants, dans les villes nord-américaines, de se rendre compte qu'en fait la sculpture contemporaine, l'image contemporaine est quasi omniprésente. En France, on est encore quand même dans un rapport au patrimoine qui s'impose par rapport à l'image contemporaine, par rapport à la présence contemporaine. Bon, voilà, ça c'est la spécificité de la France. Moi, c'est sûr que je rêverais de voir de la sculpture partout. Bon, ça après, c'est des volontés politiques, c'est des financements, c'est compliqué, c'est pas simple, donc il faut y aller peut-être doucement, tout doucement, et peut-être par le biais de ce type de proposition, ça fera évoluer l'envie des politiques de faire un peu plus, ou de se dire, on a des abords de ville avec des fleurs, avec des parterres de fleurs merveilleux. Si on remplaçait certains parterres de fleurs par de la sculpture contemporaine, par de l'intervention contemporaine, ça pourrait aussi fonctionner, hein, et ça fonctionnerait certainement très très bien. Mais bon, ça c'est pas à moi d'en décider. Moi, j'œuvre là où je suis, dans mes réseaux. Je travaille beaucoup au Portugal, je travaille un peu partout. Bon, voilà, après... voilà. Mais c'est vrai qu'il y a de l'espoir, et ça commence à bouger à Arras, donc pourvu que ça dure.
Luc Brévard, directeur des ateliers de la Halle, interviewé lundi dernier. Les ateliers de la Halle situés donc dans cette halle annexe de Cité Nature. Les Nuits du Bassin, deuxième édition, ça se passe ces vendredi 16 et samedi 17 septembre de 21h à minuit du côté des jardins de Cité Nature et des bassins du Val de Scarpe. Buvette et restauration sur place. Donc pour vous mettre dans l'ambiance, je vous signale aussi ce concert After Work, donc organisé vendredi à 19h avec le groupe Moleskine. Alors pour ce rendez-vous, l'entrée c'est 3€, tout le reste est complètement gratuit. Thank you.